Émission particulière aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, restez avec nous, Lionel. Allez, c'est parti, l'émotion. Salut les amis.
Salut Charline.
Attention, aujourd'hui je veux qu'on soit très accueillants.
Bah, comme toujours.
Oui, mais aujourd'hui encore plus.
Ah,
oui.
On reçoit une personne âgée, non?
Mais non, on reçoit deux humoristes qui ont un peu moins de chance que nous.
Ah bon? Ils exercent en Corée du Nord?
Non, pire.
Pire?
Ils exerçaient sur Europe 1.
Oula. Et ils vont bien?
Oh, on sait pas, hein, c'est pour ça qu'on les invite.
Ah, mais c'est pas sûr qu'on fait la chanson pour Patrick Cohen.
Voilà, c'est ça.
Mais non, mais c'est vous qui avez fait la chanson pour Patrick Cohen.
Ouais, Charline, elle chantait comme un pot de chambre.
Non, mais ça va pas ou quoi? J'étais carrément nickel sur les.
Ouais, enfin, Alex, t'es mal passé pour te moquer quand même.
Pardon. Excuse-moi, mais ton côté crooner raté.
Ouais, le Dick Rivers du plat pays.
Ça va, écoutez, c'est pas le problème. Hein. Donc, deux humoristes d'Europe 1 ont trouvé drôle de réécrire la chanson pour dire qu'ils étaient contents que Patrick Cohen les rejoigne.
Ah ouais, c'est drôle.
On écoute un passage.
Tout est bleu et tout est vintage.
Y'a pas de belle.
Libre continent sans gauchos.
Beau
comme on imagine un peu.
Bah voilà,
c'est drôle.
Ah bah depuis, ils sont plus passés sur Europe.
Oh bah c'est pas cool ça.
Et ils ont essayé de postuler sur Radio Pyongyang peut-être.
Oh bah non, enfin ils ont leur spectacle de toute façon.
Ah bah c'est bien qu'on fasse leur promo ici.
Voilà. C'est vrai que ces gens doivent être choqués, passer une année sur la même chaîne que Natacha Polony.
Oh bah ouais, c'est
et vous allez les laisser chanter du coup.
Oh bah oui, on pourrait faire un sketch en quatuor.
Ah oui, il est à bas radiophonique.
Oh non, vous allez pas faire ça.
Peut-être.
Oh là là, le sens du suspense pour garder l'auditeur, je suis bluffé.
Ah bah ça y est, on n'est pas chez Lagardère, mon petit bonhomme. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui donne un coup de vieux à l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va donc hydrater régulièrement jusqu'à 18h. C'est fini les restats de la politique au gouvernement, tous tricards. Il y a donc plein de nouvelles têtes. Et bien sûr, on souhaite un bon retour dans le désert à François Bayrou.
Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir.
Ouais, plein de bonnes choses pour l'avenir, ouais. Allez, au revoir François.
Une fois sortis de l'épreuve du bac, les lycéens ont un nouveau défouloir. Signer la pétition pour dire que le sujet était trop difficile. L'éducation nationale est prise publiquement à partie, alors comment doit-elle réagir?
Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune?
Nous sommes en 2017 et Simone de Beauvoir est censurée. Oui, elle montre ses fesses dans le métro, enfin elle voudrait bien. Un cliché de la philosophe nue de dos apparaît sur l'affiche d'une pièce de théâtre, mais pas sur les murs du métro. Qu'en pense Jean-Paul Sartre?
Oh ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Merci Jean-Paul. Et je suis accompagnée de celui d'entre nous qui a le plus de chances de faire carrière dans la chanson. C'est Alex Vizor.
C'est dire si il en a aucune. Et autour de la table pour accompagner nos invités, à 17h20, c'était la fête de la musique hier. Donc on a préféré l'inviter aujourd'hui. C'est vous Mélanie Bauer, bonjour.
Oui, vous allez adorer. Ah. Aujourd'hui c'est de l'ethio jazz salsa psychédélique de Bogota.
J'aurais voulu faire un sketch, j'aurais tourné comme ça. Très bien. 17h30. Celui qui pose des questions. Mais le plus fou, c'est qu'après 3 ans de chronique, il trouve encore des gens qui lui répondent. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je suis allé au Salon du Bourget pour parler du Rafale, la fierté de nos avions de combat, et j'ai appris des trucs. Qu'un technicien de France Inter pouvait faire un AVC sur un lancement. Est-ce qu'on a ce que j'ai appris ou pas du tout?
Non.
La vie se termine par la mort.
Voilà, la vie se termine par la mort.
Ah,
parce que c'est les militaires philosophes que j'ai rencontrés.
Et enfin, 17h40, la chroniqueuse littéraire que j'essaie de séduire depuis tant d'années en vain. C'est-à-dire que le jour où je vais, moi, partir à la recherche de mon temps perdu, je vais trouver que j'étais un brin trop têtu. C'est vous, Clara Dupont-Mono, bonjour.
Mélanie, bonsoir.
De quoi vous allez parler?
Des livres perdus.
Ah ben voilà, j'étais pas loin.
Mais oui. Et voici donc le duo paritaire qui va présider notre assemblée. Pour l'une, vous avez travaillé aux ressources humaines chez L'Oréal et après un burn-out, vous bifurquez vers la scène. Pour l'autre, vous avez travaillé dans une agence de pub, ce qui a inspiré votre premier spectacle. Aujourd'hui, vous mettez réciproquement en scène, vous êtes sur scène, vous avez chroniqué tous les deux aussi dans l'émission d'Anne Romanoff sur Europe 1. Vous êtes...
Olivia Moore
et
David Azincote.
C'est toi, vas-y Michel, tu peux lancer le jingle.
Voilà.
C'est maintenant.
Sur France Inter, Charline Van Necker, Alex Vizor. Si tu écoutes, j'annule tout.
Merci.
Ils cherchent pas les techniciens à Europe 1 parce que...
Ils sont très bons, c'est son premier jour avec nous. On est une équipe, on t'embrasse. Il est là derrière la vitre.
C'est le Valentin. Pauvre, il est lit. C'est le monsieur qui est par terre.
C'est ça.
Qui est à terre, ouais.
Ah ouais. Ouais, mais c'est sa première avec nous. Il en fera plein d'autres, j'espère bien, avec
des
Valentin.
Oui, ben bah, j'espère. Que...
Olivier Amour, David Azincote. Bien, c'est Alex Vizorek qui vous connaît le mieux. Enfin, Guillaume Meurice aussi.
Mais oui,
vous êtes collègues.
Même génération, humoriste. On a tous fait les scènes ouvertes pour y arriver. Et on a tous aujourd'hui un spectacle. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus important qu'on parle de ça parce que bah, ça cartonne pour vous deux aussi. Vous dire que. On va commencer par Olivia, comme ça on fait simple. Votre spectacle s'appelle Mère Indigne.
Tout à fait.
C'est autobiographique.
C'est un peu honteux.
C'est un spectacle un peu honteux.
Donc,
on parlait de la maternité. Alors, c'était pas évident de passer après Foresti, on vous le rappelle tout
absolument,
le temps.
Absolument.
Mais par contre, vous prenez un autre axe et, et vous êtes plus trash, dit la presse.
Apparemment, ouais. Oui. Ouais. On me dit souvent que ça va plus loin. Peut-être que c'est que j'ai plus d'enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, le désespoir se creuse en fonction du nombre de productions qu'on a.
À partir du quantième, vous vous êtes dit, est-ce que c'est une bonne idée tout ça ?
Non, mais du premier, clairement. Hein. Mais voilà, mais j'avais pas les mots au premier. Le premier est une phase de sidération. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible.
Vous racontez votre histoire parce que en plus
en partie,
des vôtres, vous en avez chopé qui vous appartenaient pas.
Oui, j'en ai deux en coproduction avec l'ex de mon mari.
Voilà. Ce qui vous en fait cinq.
Ce qui en fait cinq en tout. Ouais.
La coproduction.
C'est beaucoup trop. C'est
Et donc
vraiment
ça
beaucoup
fait
trop.
Beaucoup de choses à raconter potentiellement.
Et ça fait potentiellement énormément de choses à raconter.
Est-ce que on y va pour se déculpabiliser quand on est une mère, pour ne jamais en faire quand on est un homme, ou pour admettre que peut-être vous avez raison.
Alors pourquoi les gens viennent, je me pose encore la question, mais je les remercie vraiment. Ce qu'on me dit à la sortie, effectivement, c'est bon, bah, ceux qui se sont reproduits disent on se sent mieux, hein, c'est autant le merdier chez les autres que chez nous, formidable. Voilà, et ceux qui n'ont pas encore d'enfants disent c'est un peu contraceptif quand même. Hein. Voilà. Et donc voilà, c'est le spectacle le plus contraceptif de France, je pense.
Mais il y a des gens qui viennent quand même vous dire on est comme ça, mais on n'osait pas en parler.
Absolument,
oui.
Et à vrai dire, j'ai un peu hâte que ça devienne ringard comme propos, je vous cache pas.
D'accord.
Parce que je fais un certain nombre de points sur comment ça se déroule. Enfin, c'est quoi déjà d'être une femme et de devenir mère ? Parce qu'en fait, l'axe central, c'est ça. Et puis sur l'espèce de le désespoir de la condition de parent, c'est-à-dire qu'on nous demande quand même de faire grandir des êtres humains qui vont être meilleurs que la génération qui précède. Et quand on nous voit, j'ai un vrai doute. Je vois pas comment je pourrais faire mieux, moi.
David Azincote, vous avez mis en scène Olivia,
non, non, on se donne des conseils et tout, mais c'est Marie Guibourg qui met en scène.
D'accord. Par contre, l'inverse est vrai, non ?
Voilà, tout à fait. Je suis un peu comme le premier enfant, je suis le brouillon.
C'est ça, exactement. Tu es mon brouillon de mise en scène.
Mais comme vous vous connaissez très bien, on va faire ce petit exercice que chacun dit un mot sur le spectacle
ça,
de l'autre.
C'est malin,
peut-être.
Ça, c'est malin. Peut-être comme juste présenter David Azincote avant, parce que je trouve que c'est une excellente idée. Vous êtes un ancien pubard, et donc vous avez eu envie de changer de vie, et... c'est quand même cette logique de publiciste du slogan qui reste quand même une marque de fabrique dans votre humour.
Oui, j'aime bien des phrases bien ciselées qui claquent un petit peu, mais au fur et à mesure, j'ai joué de plus en plus aussi des personnages et des animaux qui parlent, notamment j'aime beaucoup les animaux qui parlent, je me drogue pas mal, c'est normal.
Voilà, un très bon sketch avec un chat, Gobbles, qui s'appelle Gobbles, que je conseille particulièrement.
Un chat nazi, ouais.
Mais oui, c'est ça, parce que j'allais dire, vos sujets de prédilection sont
le terrorisme, l'intégrisme et le nazisme. Ouais, forcément, les gens, des fois, ils font « Ah bon, oh, ok. »
Un spectacle familial.
Un spectacle tout à fait familial, ouais.
Et bien donc, je trouve une bonne idée. Olivia Moore, dites...
Alors peut-être, Olivia, vous qui connaissez par cœur le spectacle de David, peut-être en dire quelques mots sous votre regard à vous.
Ok. c'est un spectacle qui s'appelle « Inflammable », parce que le garçon est inflammable. Et puis, il a une excellente vanne pour expliquer ça.
Oui, non, mais... Wow.
Si,
allez-y.
J'aborde des sujets brûlants et aussi parce que je suis juif, donc je suis combustible.
Voilà. Ce qui vous donne un petit peu le ton du spectacle, c'est-à-dire une espèce de... Moi j'avais envie en fait de travailler avec David depuis un moment, déjà depuis Fils de pub, donc j'étais ravie que...
Son précédent spectacle.
Exactement. En désespoir de cause, il finisse par me demander de faire sa mise en scène.
Non, ça s'est fait naturellement.
Voilà. Et je trouve qu'il pratique un humour qui est à la fois noir et humaniste, ce que je trouve assez rare. Voilà.
Et l'inverse, donc ?
Eh ben, c'est moins noir que moi.
Vous êtes père ?
Non, justement, voilà.
Surtout pas.
C'est bienveillant aussi, ce que fait Olivia, mais c'est acerbe en ayant, comment dire, plus d'expérience pour en parler. Voilà. Donc, je pense que ça parle aussi beaucoup plus aux gens, il faut le dire ce qui est, parce que ça les concerne plus. Peut-être que ce que je fais moi, qui est plus mon opinion sur les choses.
Il y a des nazis qui aiment beaucoup votre spectacle.
Il y a des nazis qui adorent le spectacle d'Olivia Moore aussi.
Et moi, j'adore la famille.
Où on peut les voir ces gens, Charlie Manmaker?
Eh bien, Olivia Moore, son spectacle Mère Indigne, vous pouvez la voir à la Nouvelle Scène, mercredi 28 juin à 20h, puis les vendredis et samedis à 21h30, du 1er 1er juillet au 29 juillet. On donnera d'autres dates ensuite. Vous allez passer par Versailles
c'est
et La Rochelle.
Hein.
Oui, c'est complètement climatisé.
Et sur les bords
d'ailleurs,
de Seine.
C'est pour ça que c'est ce que je dis aux gens. J'ai le spectacle, à la limite, dormez, mais vous gagnez quand même une heure et quart de clim pour un billet de spectacle. Et ça, c'est bien.
C'est vrai. Et David aussi. David Azincourt est à la Nouvelle Scène pour son spectacle Inflammable. Mercredi prochain, 28 juin à 21h30. Les mercredis, jeudi en juillet à 21h30. Et puis, on va rappeler tout ça, bien sûr, pendant l'émission, les amis.
The sun atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man are made of the same things.
Freedom, freedom, freedom,
freedom, freedom, freedom, freedom.
Eh bien, notre grande surprise, ce titre s'intitule Freedom, par Pharrell Williams, sur France Inter.
Alors, c'est fou, ce choix de titre.
C'est dingue.
C'est le marrant.
C'est le gros tube de l'année dernière.
C'est vrai.
Bravo.
Ouais.
Ah, mais qui on vient d'entendre, là, Alex?
C'est Mélanie Bauer, dès qu'il y a de la musique, elle se sent autorisée à parler. Clara Dupont-Moineau est à côté, qui me regarde avec amour. Et Guillaume Meurice, toujours là, évidemment.
Moi aussi, je vous regarde avec amour.
Oui, je le sais.
Mais c'est tout le problème.
Nos invités sont Olivia Moore et David Azincourt, qui ont chacun leur spectacle. Mère indigne pour l'une, vous aurez deviné, et inflammable pour l'autre à la Nouvelle Scène cet été.
On devrait peut-être échanger.
Ouais.
Parce que moi, je suis pas loin de prendre feu.
Ouais, et moi, j'ai vraiment envie de non pas avoir d'enfant. Non.
Voilà. Vous avez envie d'information?
Oui.
Eh bien, c'est parti. L'information dépasse la fiction.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
La journée d'hier a été la plus chaude pour un mois de juin en France depuis 1945.
Et autant vous dire que juin 45, il faisait vraiment très chaud. Tellement chaud que certaines Françaises avaient les cheveux tondus. Voilà une vanne pour le spectacle de David Azincourt.
Merci.
Dans son journal officiel, la Corée du Nord traite Donald Trump de psychopathe.
Voilà, comme on dit dans ces cas-là, c'est un peu le Roquefort qui dit au camembert tu pues.
Il y aura des brèves. Monsieur.
Bien sûr, des brèves. Les humoristes d'Europe 1 sont des fous de brèves. Et on commence bien évidemment par le remaniement gouvernemental.
Non, non. non.
Mais quoi hein.
Non, ah, pardon, parce qu'à chaque fois que j'entends ça, j'ai peur pour Gérard Collomb, en fait.
Non, non, non. Il n'y a pas de casserole, Gérard Collomb.
Ah, casserole. Non, non, moi, j'ai peur de la canicule, moi.
Ah, mais, ça, c'est vrai que c'est le risque. Hier soir, François Bayrou avait déjà déclaré « Ce n'est pas une démission, c'est simplement que je ne serai pas membre du prochain gouvernement.
Voilà, » C'est ce qu'on appelle un alternative fact.
Exactement, et il l'a dit en tant que ministre de la Justice. Hein, il ne pouvait pas se défendre. C'est comme s'il devait boxer avec les mains attachées dans le dos.
Alors, pardon, mais quand on a le visage de Richard Gere, on n'a pas envie de l'abîmer.
On est amoureuse, François Bayrou.
Passons à l'annonce en tant que telle.
C'est lui-même qui le dit, je me signale. Oui, hier, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a fait une petite boulette.
Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame Laura Flessel, ministre des Transports. Madame Jacqueline Bourreau.
Alors que.
Oui. Alors, non, Laura Flessel reste bien sûr ministre des Sports. Sport. À moins que Transport.
Ah, ben bah, oui. Non. Enfin, c'est sans doute pour ça qu'il s'est trompé, mais à moins qu'ils aient fusionné les deux ministères. Ce qui peut être utile au cas où les Bleus refusent de descendre du bus. Là,
passons à notre nouvelle série, Les Petits Nouveaux du Parlement.
Mais oui, ce matin sur RMC, Jean-Jacques Bourdin recevait Joachim Son-Forget, le député La République En Marche, et il lui a demandé s'il allait voter Richard Ferrand pour diriger le groupe à l'Assemblée.
Je crois qu'il y a eu beaucoup d'éléments de débat qui montrent que, d'une part, vous avez la loi, vous avez aussi une éthique personnelle et vous avez eu cette idée un peu passagère que la morale pourrait être au-dessus de la loi et de l'éthique, etc. Donc ça amène à un débat philosophique un peu complexe.
Waouh ! Et il a été bien briefé par Macron. On ne comprend rien à ce qu'il dit et soudain, c'est le drame.
Je crois que la morale ne doit, qu'on ne doit pas avoir un retour de la morale parce que ça, c'est le début de la charia, j'entends.
Le retour de la morale, c'est le début de la charia. Bah, dites donc, la charia, c'est punir en coupant des mains. François Fillon, il pourrait plus aider madame à faire des confitures.
En tout cas, si vous croisez Richard Ferrand qui crie Mutuel Wagbar, méfiez-vous.
Parlement toujours.
Olivier Faure a été réélu président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Oui, la vraie nouvelle, c'est qu'il y a au moins un homme fort chez les socialistes.
Oh, il y a un jeu de mots.
Oui,
il y a un jeu de mots.
Oui.
Revenons enfin sur
vous avez le droit, vous, encore.
Oui, oui. C'est la dernière radio où on peut.
C'est ça, c'est bien.
Et revenons enfin sur l'affaire de l'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet.
Oui, son agresseur s'est expliqué.
À aucun moment, je n'ai porté un coup à Madame Kosciusko-Morizet. Je n'ai même pas eu l'intention de porter un coup à Madame Kosciusko-Morizet, que les choses soient très claires. Et là, je la vois, en la regardant, elle me regarde, pouf, elle tombe.
Et oui, je cite, et en la regardant, pouf, elle tombe. Fin de citation.
International.
Selon l'ONU, pouf, la population mondiale atteindra comme ça, paf, 9,8 milliards d'habitants en 2050.
Oui, à condition que Donald Trump et Kim Jong-un se tiennent tranquilles, sinon on pourrait être moins.
Et au Canada, oui. Luca Rocco Magnotta, dit le dépeceur de Montréal, va se marier avec un co-détenu.
Et oui, on lui souhaite un bon appétit.
Les brèves.
Allez, les brèves. Fait divers en Alsace, un homme qui se noyait appelait au secours, mais ses amis n'ont pas bougé, il croyait à une blague.
Ah, cool,
c'est le même problème que François Bayrou, à force de se couler lui-même, on ne fait plus attention à ce qu'il fait.
La dernière.
Oui, encore pire, au niveau soutien assistance sa personne en danger, ça vient de chez nous, Belgique. Il se fait un café avant d'appeler les secours alors que sa femme aurait pu être sauvée. C'est beaucoup de tristesse. Et pendant ce temps-là, sa femme était comme son café, allongée. C'est à Liège, on salue les Liégeois.
En compagnie d'Olivia Moore et David Azincote, on va aborder ce premier sujet. Il s'appelle Sébastien Lecornu, Nicole Belloubet ou encore Jacqueline Gouraud. Et son ministre, ça va pas être simple pour les blagues parce qu'on ne sait absolument pas qui c'est. Mais ils sont au gouvernement, donc ils gagnent à être connus. Et ils ont été bien briefés pour pas finir comme Ferrand ou Bayrou.
Il n'y a pas que les magouilles pour réussir dans la vie.
Non, ben voyons. Mais tu te rends pas compte que si tu deviens honnête, les gens vont te montrer du doigt dans la rue parce que tu seras le seul type honnête, le seul type pourri.
Allez, arrête, arrête.
Mais je te dis qu'il n'y a pas un seul mec honnête dans le coin, moi. Et je te le prouve quand tu veux.
Noiret, l'ermite, dans les ripoux, bien sûr. Olivier et David, tiens, le départ de François Bayrou du gouvernement, est-ce que c'est une grosse perte pour l'humour politique que vous pratiquez aussi dans votre chronique?
Gravement. Moi, je suis très déçue parce que je pensais que François Bayrou essayait de jouer à patron incognito. Et je suis vraiment très embêtée avec ça et j'avais vraiment tout un rang de vanne prêt tant qu'il restait. Et donc voilà, en fait, il avait un bon potentiel de Fillon. Oui. Et ouais. Tu vois, donc je suis extrêmement déçue, oui, clairement.
David. Moi, je pense qu'il a épuisé toutes les vannes qu'on pouvait faire. Parce que,
si on peut dire, depuis longtemps.
Voilà, il est là. Ouais, exactement. Non, c'est un tocard. Il est là depuis 12 000 ans. Il dirige un parti qui n'existe pas vraiment. Voilà, on a fait le tour, quoi. Ça, toutes les blagues, on les a faites. Le modem, bip, bip, bip. Internet, voilà. C'est bien. Il faut partir.
Le renouvellement, c'est-à-dire que le renouvellement politique, même quand on a des ministres qui s'appellent Sébastien Lecornu, Nicole Belloubet ou Jacqueline Gourault, on ne sait pas qui c'est, etc.
On va revenir au jeu de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va commencer par là.
Il va y avoir un temps d'adaptation.
Mais je réagis en tant que citoyen avant qu'humoriste. Je suis content d'avoir une juriste au ministère de la Justice parce qu'on le fait jamais, ça. C'est assez paradoxal. En France, on dit tu veux quoi? Les transports? Ouais, je te file les sports, c'est pas grave. Et là, pour une fois, on a une juriste. La meuf, elle sait de quoi elle parle. Donc, a priori, c'est pas vrai.
C'est un gouvernement d'experts. En tout cas, chacun est.
De technocrates, comme à Vichy. Ouais, c'est cool. Pardon.
C'est un point inflammable, bien sûr, de David Azagot. C'est un gouvernement d'experts où chacun est dans son domaine, enfin pas tous, mais dans leur domaine des connaisseurs.
Peut-être ils vont savoir de quoi ils parlent, c'est quand même un peu rassurant.
Vous confieriez vos enfants à François Bayrou, vous, Olivier?
Ah ouais, grave. Pour le coup,
il a le temps. Ouais,
il a la qualité majeure du parent débutant qui est la mauvaise foi. Donc moi, ça me va très bien.
Il a une certaine autorité quand même, puis il élève des poneys,
et puis il met des claques. Ah ouais, non, alors ça, c'est pas possible. Non, moi, je tape pas sur mes enfants parce que malheureusement c'est pénal.
Pas de gifle, c'est vrai. Allez les amis, avec Mélanie Bauer, on va parler un peu musique.
Enfin quelque chose d'intéressant.
La peste.
Alors en ce lendemain de fête de la musique où vous étiez tous dans les coulisses entre humoristes à picoler avec M en fond sonore.
On a vu le spectacle, j'ai dansé sur la musique malienne, moi madame.
Oui, à l'Olympia.
Des images.
Oui, je les ai vues. Moi je me recueillais en buvant du jus de pomme avec JP Nataf dans la magnifique église de Saint-Eustache. Je vous propose donc un Alka-Seltzer musical, un voyage dans l'espace-temps qui part d'Angleterre pour aller en Afrique et surtout en Colombie sur les traces de la musique psychédélique. Ici donc les Colombiens de Meridian Brothers par exemple, vous entendez facilement les basses du son éthiopien
très nettement.
Je vous le prouve avec le fameux Mulatu Astatke et une chanson qui part d'Afrique. Vous voyez bien?
C'est un peu Richard Gottener.
Elle est aussi douée que moi.
Alors ça, c'est un grand classique hein, quand même.
C'est vrai.
On a tous dansé là-dessus.
C'est Caprice et Fini.
Yegele Teseta Mulatu Astatke. Alors c'est la base rythmique donc du son de Meridian Brothers. Le reste, c'est du rock psychédélique colombien. Bon, alors, je vous ai perdu. Alors pour mieux vous expliquer, une parenthèse. Tout se passe sur le label de musique anglaise Soundway Records, un label qui regorge de rareté, de curiosité musicale, avec des anthologies incroyables qui partent chercher leurs chansons dans les années 70 au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Asie. Des pépites funk rock aux origines du groove, celui de avant les ordinateurs. Je vous invite vraiment à découvrir ces anthologies, mais aussi les autres artistes du label Soundway qui s'appellent Des Bruits et Al-Sara, Los Míticos del Ritmo, Chico Man. Et je reviens à mes copains Meridian Brothers, une folie tropicale qui mélange donc, comme les autres voyageurs du label, des racines psychédéliques africaines à la salsa rock colombienne que l'on connaît par exemple avec nous chez nous, par exemple avec les Latin Brothers, ça aussi vous connaissez par cœur. Énorme tube.
Il a emballé déjà là-dessus.
Mais oui.
Elle était sourde.
C'est la salsa colombienne. Donc, on a un peu d'Afrique.
Vous prenez des substances interdites pour ces musiques ou pas?
Du rhum.
Ça dépend. Vous prenez quoi pour écouter Goldman? Bon, alors voilà. Voilà pour le décor. À partir de toutes ces influences depuis la fin des années 90. Les Meridian Brothers bidouillent, tritouillent, détournent ces classiques et inventent par exemple la salsa des zombies. C'est ça.
Ah oui.
Attends, c'est un peu zarbe.
Ouais. C'est Star Trek un peu.
Ouais. Les démons de minuit un peu de image.
On sent bien les zombies.
Écoutez.
Alors ils font aussi de la cumbia de l'espace. Ils utilisent des instruments traditionnels, de la technologie électronique. Et leur prochain disque sortira en septembre. C'est là où je voulais en venir depuis le début. Et mais je sais que j'ai besoin de faire tout ça pour arriver à ce que vous écoutiez. Il s'appelle Donde Estas Maria. Et je l'ai pour vous ici maintenant sur France Inter. Et bien avant Europe 1. Et Donde Estas Maria, Meridian Brothers sur le label Soundway Records.
María, de sí. Meridian Brothers.
Sí, madame.
Muchas gracias.
Ça sort le 8 septembre.
Mélanie Bauer, merci pour cette découverte. Ça sort le 8 septembre, il y a un nom d'album, quelque chose
Oui, Donde Estas María.
C'est l'album. Non, je crois que c'était le single.
Mais c'est aussi le single.
Ok. Ouais,
ils
voilà.
sont dit, c'est bien.
Les journalistes, en général, ils disent éponyme. Mais bon, on s'en fout.
Éponyme, la classe.
Tout à fait. Vous êtes sur France Inter, bien sûr.
Avec des mots comme éponyme.
On écoute, on écoute de la musique colombienne remixée, etc.
Exactement. Ça ressemble un peu à Os Mutantes. Vous savez que je peux faire une émission là-dessus.
Oui, oui,
si
ça
vous continuez à balancer.
Vous en aurez une cet été, d'ailleurs.
À partir du 1er juillet.
Nous sommes en compagnie d'Olivia Moore et David Azincote, que vous avez peut-être entendu sur Europe 1 si vous nous faites des infidélités, mais que vous pouvez surtout voir sur scène. Olivia et David sont séparément dans deux spectacles différents à la nouvelle scène tout l'été. Olivia dans Mère Indigne, David dans Inflammable. Tiens, vous passerez par Avignon quand même le 11 juillet, David, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, je fais une exceptionnelle là, parce que pour me rappeler le bon vieux temps d'Avignon où je dépensais des sommes folles pour avoir personne dans ma salle, c'est vrai que ça me manque.
Et le 29 juin, Olivia sera à La Rochelle.
Voilà.
À côté de vous, il y a le fameux Guillaume Meurice.
Bah, oui, aïe.
Le seul, l'unique. Enfin, le fameux.
Il faut se calmer quand même. Ouais. Moi, je suis allé au Salon du Bourget, figurez-vous. Salon aéronautique où les avions décollent, voltigent et piquent, tel Serge Dassault dans les caisses de Corbeil-Essonne. vaisseaux, il va en être question dans cette chronique parce que je me suis intéressé au Rafale, le célèbre avion Rafale. Je me suis même placé devant le stand d'assaut où était exposée cette fierté française. Et je dois vous dire, putain, quel succès ce Rafale. C'est lui qu'il fallait prendre à Europe 1 pour remonter les audiences. En plus, il vous aurait coûté moins cher que Patrick Cohen, je pense. Le Rafale, c'est seulement quelques dizaines de millions d'euros à côté de Patoche, chez cadeau. Et en plus, c'est un avion dit intelligent. Ça vous aurait changé de Raphaël Enthoven. Mais bon,
on n'est pas là
pour parler de repas. Revenons à notre Rafale et à ses fans. Et on commence avec une dame.
C'est un bel engin quand même, surtout quand il fait les descentes en pic.
Mais est-ce qu'un engin de mort peut être un bel engin?
Est-ce que ça doit automatiquement ou impérativement être un engin de mort?
Ah ben, disons qu'il transporte des missiles quand même.
Oui, mais il n'est pas obligé de les lancer.
Ah, bien vu. Ah, papa. Alors si c'est de la déco, je dis ça va. Ok, non, mais c'est vrai. Moi-même, quand je vois un djihadiste avec une Kalachnikov en bandoulière, je me dis, bon, ben, il n'est pas obligé de l'utiliser. Je me dis même parfois, oh, le joli collier. Voilà. Alors attention, pas de procès, attention. Continuons avec cette dame.
Moi, c'est la machine, c'est la technologie, c'est tout ce qui est autour, mais pas la mort.
Pourtant, sans l'aspect mortel, il ne se vendrait pas.
Moi, je fais une abstraction totale de cet aspect-là.
Voilà, et ça, c'est le conseil qu'on donne aux gens qui se trouvent sous les bombardements. Faites abstraction de l'aspect mortel de l'engin, sinon ça va vous causer du stress et ce n'est pas bon pour votre tension. Voilà, radio de service public, on est là pour donner des conseils. Regardez juste, si vous voulez, la beauté de l'objet. Par exemple, le virus du sida, quand tu regardes bien, il est joli. Clara Dupont-Mono, elle est jolie. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Sachez, oui, c'est des comparaisons un petit peu hasardeuses, mais sachez apprécier les belles choses. D'ailleurs, quand je parle de beauté, on peut même aller plus loin.
C'est un avion sexy, très sexy. Moi, je trouve qu'il est vraiment très très joli. C'est l'avion le plus sexy au monde. Avec les arrondis, la pénétration dans l'air.
Putain, arrête, tu m'excuses. J'étais à deux doigts de jouir comme un éditorialiste du Figaro dès qu'on en vend 15 à un pays sous-développé. Alors, à leur décharge, sans mauvais jeu de mots, on n'a pas tous les jours des occasions d'être excité au Figaro en dehors de la journée de dépistage du cancer de la prostate. C'est quand même assez calme. Mais c'est pas le sujet. On se fait les images. Le sujet, c'est se défendre. Et c'est important, n'est-ce pas?
Les peuples qui sont pas capables de se défendre sont souvent soumis.
Mais ils sont soumis par ceux qui attaquent, non?
Oui et non.
Ouais. Ils sont soumis par ceux qui ont une armée.
Je sais pas.
Bon, disons que c'est assez rare qu'un pays envahisse un autre avec des petites cuillères ou des chamallows. Ah voilà, on va pas se mentir. Alors je sais bien que les djihadistes attaquent au marteau, mais je sais pas si un Rafale va être bien utile à ce moment-là. Enfin, c'est plutôt Valérie Damido qu'il faudrait envoyer. Elle connaît mieux le matos, elle va leur maroufler la gueule, ça sera plus efficace. Mais en attendant, est-ce que c'est une bonne idée de vendre des technologies de guerre au monde entier?
Je crois que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est les dictatures. Ah. Voilà, bon, les démocraties qui dispose d'un armement, je pense que ça me semble plus logique que les dictatures.
Par exemple, le Qatar, c'est une dictature. Et pourtant, on leur vend des Rafales.
Je suis pas au courant de toutes ces ventes. J'en entends un petit peu parler.
Vas-y, quand même, on l'a su, ça.
Oui, c'est très difficile de pouvoir juger.
C'est pas évident. C'est vrai que c'est un pays qui coupe la main des voleurs et qui jette les homosexuels du haut des immeubles. Faut voir aussi l'aspect culturel. Je veux dire, il y a un savoir-faire. Il y a tout un artisanat derrière tout ça. Donc c'est pas qu'on ferme les yeux, mais on a tendance, c'est vrai, à regarder l'intérieur de nos paupières. N'est-ce pas, monsieur?
Écoutez, si on met beaucoup d'argent et c'est nos impôts à en construire, autant que ce soit une réussite.
Est-ce que la guerre, c'est bon pour l'économie, alors?
Sous certains aspects, oui.
Est-ce que ça, c'est pas un problème?
Écoutez, j'ai pas envie de voir ça sur cet aspect-là.
Ah, c'est vrai, il a raison, mais c'est un défaut que j'ai. Moi, je vois toujours ça sous un mauvais aspect.
Ça, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Je me dis toujours, tiens, les budgets militaires explosent partout dans le monde, ça pue du cul. Parce que je vois ça du mauvais aspect. Je me dis toujours, tiens, pourquoi on n'investirait pas dans des avions ou des drones capables de stopper plus facilement des incendies comme celui du Portugal? Eh ben non, mauvais aspect. C'est mon côté chiant. Voilà, c'est mon côté pénible, c'est mon côté Mélanie Bauer. Alors, pour contrebalancer. Attention, pour contrebalancer.
C'est pas possible.
Pour contrebalancer, je voulais quand même finir cette chronique par une note positive directement avec un militaire.
On a l'occasion de côtoyer ces avions-là toute l'année, vu qu'on part pas mal en mission, donc c'est un bel avion. Après, chacun y voit son compte.
Bah, disons qu'on s'imagine que si on se prenait ça sur le coin du bec, on ferait pas les malins, quoi.
Ah bah oui, non mais ça par contre, je pense que ça efface les sourires.
Ça efface les sourires, voilà, c'est bien vu. Ça efface les sourires des femmes, des hommes, des enfants, mais pas ceux des actionnaires de chez Dassault.
Guillaume Meurice.
Oui, merci pour tout.
Voilà, donc c'est bon. Depuis hier, on est fâché avec Bolloré, Lagardère aujourd'hui et bon, Figaro, Dassault. Dassault. C'est bon.
C'est bon, on a tout.
Bah, on continue, hein. Allez, c'est on jusqu'à vendredi.
Ah, il y a Bouygues qui vient de tweeter et moi. Drahi aussi.
Et moi, ça fait Drahi.
Ouais. On va s'en occuper avec Olivier Amour et David Azincote qui nous accompagnent jusqu'à 18h. Voici ce deuxième sujet. La nouveauté du bac 2017, c'est qu'après chaque épreuve, une pétition est lancée par les lycéens pour s'insurger contre des sujets trop longs ou trop compliqués. L'éducation nationale est donc quotidiennement interpellée, et vous vous en doutez, de manière très argumentée.
Pas content.
S'il vous plaît.
Oui. Pas content.
Un extrait d'Astérix et Obélix, pas facilement identifiable. Donc des lycéens interpellent les pouvoirs publics et la population en lançant une pétition. Apparemment, c'est devenu quasiment quotidien. C'est un article du Figaro, justement, aujourd'hui. Après l'épreuve du bac, ça vous inspire une réflexion. C'est ce qui est amusant. On sort de l'épreuve, bim, allez, change.org, bam, c'est trop long, c'est trop dur.
Non, mais moi, j'ai cru que c'était un titre du Gorafi, en vrai. Ça, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. La réalité a dépassé la fiction. Et après, je me suis dit, finalement, je trouve ça pas mal. Je trouve juste qu'il manquait un tout petit peu d'ambition, les lycéens. C'est-à-dire que quitte à faire des pétitions à la con, je demanderai déjà la clim dans les salles d'examen. Voilà, puis surtout, je demanderai avoir aussi, je les questions la veille.
Oui.
Aussi. Et potentiellement, un voyage en Polynésie pour fêter ça.
Vous qui êtes maire, quand ils reviennent en disant « Oh là là, c'était trop dur, je comprends pas », est-ce que vous leur reprochez de ne pas avoir assez étudié ou vous reprochez quand même au professeur de trop monter le niveau?
Non, moi je reproche globalement à l'école de ne pas garder mes enfants assez longtemps. Je trouve scandaleux que ça ferme le week-end. Ce concept de vacances scolaires, je ne comprends pas. Je comprends pas. Voilà.
Non, mais après, à l'heure des charges, parce que moi j'ai suivi, je suis en plein
vous
dedans
avez signé
en ce
la
moment.
Pétition
oui. Non, mais à l'heure des charges, je crois qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont fuité. Et donc, ils les ont remplacés au dernier moment par des sujets qui n'étaient pas forcément dans leur cursus et qu'ils n'avaient pas forcément bossé. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même des petites raisons de ne pas être content.
Voilà. C'est aussi un défouloir, David Azincote. Est-ce que vous vous rappelez de la manière dont vous vous défouliez éventuellement après une épreuve assez stressante?
J'ai pas trop envie qu'on en parle. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert. J'y vais à Pigalle. On se battait beaucoup à l'époque. C'était les années 80, 90. Il y avait Riton, le Marlou, tout ça. Voilà,
si vous allez à Pigalle après, vous créez de la croissance. L'économie circule.
Exactement.
Hein.
Mais surtout les animaux. C'est un sketch que je ne ferai pas ici. C'était quoi la question déjà?
La question, c'était est-ce que vous aviez un défouloir après les examens?
J'avais un défouloir très simple. Qui était que c'était fini en fait. Moi, je me rappelle très bien mes examens, je me disais, il reste deux heures, un quart d'heure, hop, c'est fini, et après je passe à autre chose. Et avant même d'être alcoolique en fait, c'est ça qui est fou. Déjà, j'oubliais très vite les choses, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais juste, non, pour dire, ma copine est prof et. On va être franc, les gosses sont de plus en plus cons. Voilà. je préfère résumer les choses. Voilà. Hein. J'en ai pas, je peux le dire. Donc voilà.
Mais qui les éduque, les profs?
Je crois que personne les éduque, ni les parents, ni les profs. En fait.
Plus personne n'en a plus envie en vrai.
Les profs essayent de rattraper le coup, mais c'est des consommateurs. Enfin, j'ai pas envie de reprendre.
Il y a une forme de désengagement du côté familial qui fait que les profs peuvent pas rattraper le coup.
C'est trop tard. Et puis, je suis désolé de faire mon réac, mais c'est des consommateurs.
On a eu Finkel pour consommateur.
On n'a pas entendu Olivia.
Non, je disais qu'en tant que parent, on n'a pas le temps de s'en occuper. Enfin, moi, j'ai beaucoup trop de temps à passer sur Facebook, tout ça. J'ai pas le temps d'aider mes enfants.
Ceci dit, faire une pétition pour l'éducation nationale, dire autant pisser dans un ventilo, quoi.
Effectivement. En tout cas, sachez que la plateforme de pétition en ligne change.org, elle est présente dans 196 pays et la France est quatrième pays qui poste le plus.
Donc, c'est pas complètement étonnant.
Et qu'il y a une pétition qui réclame le diplôme du bac 2017 pour tous les candidats parce qu'il fait trop chaud. Ça va donc au-delà de tout ce que vous aviez imaginé, Olivia.
Ils ironisaient, cela dit, la pétition, il fait trop chaud, c'était pour ironiser sur justement le trop plein de pétitions.
En parlant d'ironie.
Et de ventilateurs.
Et vous êtes facétieuse, Clara Dupont-Moneau.
Oui, parce que l'actualité, c'est bien sûr François Bayrou, on l'a dit, mais aussi Sylvie Goulard et tous les autres qui sont partis avant même d'exercer réellement leur fonction de ministre. Alors, imaginez, mais Sylvie Goulard, ministre des Armées, c'est un peu comme un livre qui sera jamais écrit, finalement, donc jamais lu, une espèce de récit en suspens, une intrigue à peine ébauchée, que nous sommes donc condamnés à imaginer. Et justement, la littérature vient à notre rescousse, comme toujours, avec un très joli livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Le livre des livres perdus ». Il est signé de l'italien Giorgio von Straten, comme son nom ne l'indique pas. Mais il se trouve que dans notre histoire littéraire, il y a quantité de livres qui se sont perdus, un peu comme le CV d'humoriste à Europe 1, par exemple, au hasard. On les perd, c'est très bizarre, on ne sait pas où ils sont passés. Alors attention, pas des livres oubliés, parce que ça, il y en a plein. Des livres qui ont été faits, publiés, lus, et puis hop, dans les limbes. C'est pas non plus des livres qui n'ont jamais vu le jour, non. C'est, je cite, « Les livres perdus sont ceux que leur auteur a écrits, même si parfois il n'a pas réussi à les terminer, des livres que certains ont lus, mais qui ensuite ont été détruits, ou dont on n'a plus de nouvelles. » Alors, il y a plusieurs motifs de disparition d'un livre. Vous avez la censure, vous avez la guerre, vous avez la volonté parfois des héritiers, vous avez l'autodestruction, comme c'est arrivé à Kafka, et vous avez bien souvent le feu, on l'a oublié avec nos technologies numériques, mais très longtemps, c'était le feu, l'ennemi du livre.
Et la fainéantise, il faut le dire aussi.
Eh bien non, puisque je viens de dire que c'était des livres qui ont été écrits. Voilà, merci de suivre. Donc cet ouvrage prend 8 livres. C'était bien d'essayer.
J'ai essayé.
Voilà, mais non.
J'en ai mangé une un peu velue. Hein.
J'ai pas le niveau.
Cet ouvrage je prends donc 8 livres perdus, mais 8 histoires pardon, qui ont vraiment existé. Par exemple, un jour de la fin de 1922, à la gare de Lyon, à Paris, une femme hisse une très lourde valise toute noire dans le filet à bagages. Et puis, soudain, elle a très soif. Donc, elle descend rapidement du train avant qu'il parte. Elle va s'acheter une bouteille d'eau. Elle remonte et là, elle découvre que la valise a disparu. Et bien, dedans, il y avait tous les manuscrits d'Ernest Hemingway, y compris les sauvegardes sur papier carbone, parce qu'à l'époque, on avait ça comme copie. Et la femme en question, c'est Adlai Richardson, qui était sa première épouse et qui voulait lui faire une surprise, sauter dans le train pour aller le rejoindre à Lausanne avec tous ses textes sur lesquels il aurait pu travailler.
J'aurais super juste surprise. Aimé être là. Ah, ouais. Au moment où elle dit oui, alors vous faites la valise. J'avais chaud, j'avais soif.
Figurez-vous que Hemingway a raconté cette scène, parce qu'il a été tellement catastrophé qu'il a raconté cette scène-là plusieurs fois, et il raconte comme Adlai Richardson sanglote tellement qu'il n'arrive pas à entendre ce qu'elle veut lui dire. Et il va écrire cette perte, notamment dans le recueil « Paris est une fête ». Il va le reprendre plusieurs fois, mais il va écrire ce dépouillement qu'il a mis à terre. Cela dit, qu'il ne l'a pas incité à abandonner l'écriture, parce qu'Hemingway s'est accroché plutôt vaillant, contrairement à d'autres, parce qu'il y en a d'autres que les livres perdus ont terrassés pour toujours. Par exemple, Malcolm Lowry, c'est l'auteur de « Au-dessus du volcan ». Je ne sais pas si vous connaissez peut-être ce livre, mais il se trouve qu'il s'était isolé dans une cabane, au Canada en plus, sans eau ni électricité, uniquement pour écrire. Et puis la cabane a pris feu en 1944. Et quand Malcolm Lowry voit sa maison partir en fumée, il sait que dedans, il y a le seul exemplaire du livre qu'il écrit depuis 9 ans et qui compte 1000 pages et qui s'appelle « Le voyage sans fin ». Il en était à sa deuxième version et il sait qu'il ne pourra pas en écrire une troisième version. Et beaucoup plus tard, dans les papiers de son ex-femme, on va retrouver le brouillon de ce voyage sans fin, mais le brouillon seulement. Et donc, on est condamné à imaginer ce que aurait été ce livre. Et Giorgio von Straten écrit « Les livres perdus ont quelque chose que les autres livres n'ont pas. Ils nous laissent, à nous qui ne les avons pas lus, la possibilité de les raconter, de les réinventer. Ils reprennent vie à l'intérieur de nous. » C'est magnifique. Alors parfois on n'est pas sûr. Ça fait chair de. Mais je sais, c'est un livre
chair de poule.
Alors parfois on n'est pas sûr. Par exemple, Giorgio von Straten raconte qu'il est fou d'une poétesse américaine qui s'appelle Sylvia Plath. Bon, et les archives de Sylvia Plath ne pourront être consultées qu'en 2022. Et il dit : je suis prêt à attendre. Pourquoi ? Parce qu'il cherche un roman de 130 pages qui s'appelle Double exposition. Et il se trouve qu'en effet, au matin du 11 février 1963, Sylvia Plath s'est réveillée, elle a préparé le petit déjeuner pour ses deux enfants, après quoi elle a calfeutré la porte de leur chambre, elle s'est enfermée dans la cuisine et elle a ouvert le gaz. Et après son suicide, c'est son ex-mari, avec qui pourtant elle était brouillée, qui va organiser et assurer sa postérité littéraire, et il ne voudra jamais dire ce qu'il a fait de double exposition. Il va se mentir, il va se contredire, tout le monde lui demandera « Mais qu'est-ce qui est devenu ce roman ?» Il racontera n'importe quoi, ce sera fluctuant, et on ne saura jamais. Et pourtant, cela dit, même si un jour on sait, Giorgio von Straten dit « Mais si ce roman revenait au jour, au fond, serait-il correct de le publier ?» Voilà, je vous donne les références. Le livre des livres perdus de Giorgio von Straten est paru chez Actes Sud.
Oh, merci Clara Dupont-Mono, c'était beau, passionnant. Et vous êtes encore meilleure depuis que vous travaillez à Marianne. Hein. On connaît la une de demain ou pas ?
Non, non,
on va, ça sera une surprise. On va la faire ce soir.
Ah, très
c'est
bien.
C'est vrai que depuis que vous avez arrêté d'écrire des romans, vous êtes vraiment brillante.
Merci Olivier Amour et David Azincourt sont avec nous. On va aborder ce dernier sujet. Les correspondances amoureuses, justement, de Simone de Beauvoir sont à l'affiche de la rentrée théâtrale. Mais l'affiche n'est pas rentrée dans le métro. L'entreprise JC Deco semble avoir censuré parce qu'on y voit les fesses de la philosophe sur un cliché, elle pose nue de dos. C'est ce que dénonce une comédienne, hein, le fait que ce cliché soit censuré. Bref, écoutez comment ça fait débat.
Passons à notre sujet.
Bah voilà, c'est clair, c'est les frères Jacques.
Non, ça n'a pas vieilli, hein, c'est non.
Un sujet choisi par Alex Vizorek.
Mais oui, alors déjà en tant que comédien, quand on démarre et qu'on choisit une affiche, bah, ça nous ennuie beaucoup qu'on nous dise qu'elle n'est pas bien. La censure, c'est pénible, non?
Un petit peu.
Ah, ça doit être chiant la censure.
Ouais, ouais, il paraît.
Il paraît que c'est pénible. Il paraît que c'est blessant même des fois.
Oui.
Non, mais nous, on ne sait pas.
Ouais,
mais on voudrait dire que vraiment, on a toujours bien travaillé et que les humoristes d'Europe 1 sont des gens très drôles et très sympas. Arrêtez de nous brouiller avec tout le monde. Merde.
Non, c'est vrai, on les salue d'ailleurs.
C'est vrai qu'ils sont très bien.
Ils sont tous très bien, franchement.
Sur la photo elle-même.
Oui.
C'est pas la première fois que Metrobus fait chier les gens avec ça. Ils ont fait ça pour des affiches de cinéma. C'est une régie en fait. Les mecs ils sont privés, ils font ce qu'ils veulent.
Alors, vous qui avez travaillé dans la pub, vous pouvez nous expliquer qu'il
y a une délégation. Je sais pas comment ça fonctionne exactement.
Je vais vous le dire. Voilà. Ils attendent encore le niveau de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que est-ce que cette photo peut être diffusée et ils doivent consulter l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et qui doit rendre un avis sur la nudité.
Oui, parce que autant rendre les gosses obèses en racontant n'importe quoi, ça c'est cool, mais montrer une femme...
De Simone de Beauvoir. Voilà.
Mais cela dit, c'est comme Internet. Regardez, on laisse courir des vidéos de djihadistes et compagnie avec des propos atroces, et en même temps, on censure l'origine du monde de Courbet.
Mais même, faut pas aller jusque-là, les pubs pour les yaourts avec des nanas à poil.
Bah ouais. C'est ça, ils s'y prennent très mal. Il aurait fallu mettre, je sais pas, ou une caisse de yaourt ou un aspirateur à côté. Tu mettais un bandeau spécial promo fête des mères, ça passait nickel. Franchement, ils se sont très mal pris. Je comprends pas.
C'est vous qui auriez dû travailler dans la pub.
J'ai travaillé dans le marketing.
Ce qui est ouf, c'est que les kiosques à l'extérieur, il y a des affiches de trucs porno partout dessus, et ça pose aucun problème parce que c'est la liberté de la presse. Mm-hmm. Mais par contre, quand c'est de l'affichage commercial, alors là, ça va plus.
Ah, c'est un peu réac, vous, j'aime beaucoup.
Oui, hein, j'aime bien qu'on dise ça. Non, mais c'est vrai, c'est totalement illogique.
Méfiez-vous, Clara, c'est un faux réac.
Ah, c'est les pires.
Ils sont un petit peu libertaires, comme ça, sur les bords, on aime bien.
En tout cas, je ne connaissais pas cette photo et elle est très intéressante.
C'est son amant de l'époque qui l'a fait.
C'est Nelson Algren. Moi, je voudrais faire un appel. Je trouve que toutes les comédiens et les comédiennes devraient faire des photos de dos, de leurs fesses. Et voilà, et on publie ça partout pour que les gens s'y fassent.
C'est parti, très bonne idée.
Il y a les mecs à poil sur les paquets de clopes. Hein.
Allez, si on passait au sketch qui est très attendu, parce qu'il est spécial.
Ah, attendu. Eh bien, c'est deux humoristes de France Inter et deux humoristes d'Europe 1 qui se retrouvent au même endroit et qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chacun joue son propre rôle.
D'accord. Bon, tout le monde a fait ses vocalises.
Attendez, vous avez quand même pas chanté là.
Évidemment que si, on a chanté.
Ça serait dommage de priver les auditeurs.
Hein. Non, attendez les gars, on n'est pas sur Europe 1 ici, il y a des gens qui écoutent en fait.
J'ai même trouvé un super nom de groupe, les To Be Four.
Attendez, parce que vous allez chanter tous ensemble là.
Et vous, les deux là, vous avez eu des propositions de maisons de disques après la chanson?
Ah non.
Non, pas nous non plus.
Nous non plus, non.
C'est faux, on a eu une grosse proposition.
Ah oui, c'est vrai, chez Bidet Musique.
Nous même pas.
Attendez, sans déconner, le 21 juin, c'était hier, c'est fini la fête des casseroles.
Sûrement pas.
Non, il faut qu'on trouve un bon thème pour la chanson.
Le départ de Patrick Cohen.
Le départ de Patrick Cohen, c'est génial. Musique.
Oui.
Que les vents te mènent.
Vous êtes sûr que c'est le vent?
D'autres âmes plus belles.
Mais ça, c'est pas difficile.
Seront aimées mieux que nous.
Puisque l'on ne peut t'aimer plus.
Mayotte.
Que la vie t'apprenne.
Mais Patrick reste le même.
Si tu te trahissais,
nous t'aurions tout à fait perdu.
Ouais, c'est pas déjà fait ça?
Patrick, garde cette chance.
Que nous t'envions en silence.
Bande de jaloux.
Cette force de penser
que les plus beaux restent à venir.
sur Europe 1, vous êtes sérieux là?
Et loin de la maison ronde
dont tu désertes les ondes,
sache qu'ici reste de toi
comme une empreinte,
ensemble
indélébile.
Youhou! Bravo, c'est génial, super. Non, je déconne, la merde.
Olivia Moore, vous avez une voix
magnifique. Elle chante bien, elle. Mais oui. Ah, c'est...
Non,
oui,
je c'est chante pas, bon. Je m'exprime. J'ai beaucoup trop de respect pour les gens qui chantent réellement, vous savez.
Oui, alors,
en même temps, c'est pas difficile de sortir du lot, si je peux me permettre.
Oh
ah, mais, non, soyez pas peste, c'est beau. C'est
ah
beau.
Bah, ça, c'est trop tard.
C'est alternatif.
Merci les amis, Olivia Moore et merci. David Azincote. Vous pouvez réécouter les chroniques en replay, hein, sur
ouais,
en attendant de savoir quelle est votre sœur.
Ah bah, qui sait
Olivia et David, que vous pouvez voir dans leur spectacle respectif à la Nouvelle Scène, qui est en plus une super chouette salle sur les bords de Seine.
Très romantique.
Olivia, mère indigne, mercredi 28 juin, puis tous les vendredis et samedis à 21h30 du 1er au 29 juillet. Vous serez à Versailles les 23 et 24 juin à la Royal Factory.
Absolument.
Voilà, ce week-end, 29 juin à La Rochelle. Et David Azincote, votre spectacle inflammable, donc aussi à la Nouvelle Scène, mercredi 28 juin à 21h30. Les mercredis, jeudi en juillet à 21h30. Et le 11 juillet, pour une exceptionnelle à Avignon, vous serez au Théâtre des Brunes.
Tout à fait.
Merci à tous les amis autour de cette table. Demain on reçoit Jean-Pierre Bacri et on laisse le mot de la fin au départ de François Bayrou.
Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir.
Ouais, plein de bonnes choses pour l'avenir, ouais.
Allez, au revoir François.
Allez, au revoir François, ouais.